Et voici la revue de la presse française avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous.
À la une, la rentrée scolaire face à la menace terroriste.
Cette année en France, la rentrée des classes sera sous haute surveillance. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, va faire aujourd'hui une conférence de presse accompagnée du ministre de l'Intérieur pour rappeler toutes les mesures décidées cet été afin de renforcer la sécurité dans les écoles. Le Figaro est allé enquêter auprès des établissements catholiques qui musclent leur dispositif. Ces écoles peuvent s'inspirer des écoles juives qui, nous rapporte Le Figaro, ont des procédures draconiennes depuis les années 80. On nous a longtemps traités de paranoïaques et maintenant on nous demande conseil, fait remarquer le chargé de la sécurité du consistoire du Bas-Rhin. Le Parisien, de son côté, a demandé l'avis des élèves de Vincennes qui fréquentent un lycée proche de l'hypercachère attaqué en janvier 2015. Les lycéennes rencontrées seraient rassurées de savoir que profs et adultes savent ce qu'ils font. Elles sont donc satisfaite que des exercices supplémentaires soient prévus cette année. Et Philippe Tournier, le représentant syndical des proviseurs, interrogé par Le Parisien, trouve que l'ensemble des établissements français sont encore loin du compte en termes de sécurité, notamment ceux de la périphérie. Il faut, dit-il, se poser la question de la présence de vigiles à l'entrée des lycées. Enfin, explique-t-il, jusqu'à maintenant, le dispositif essentiel consistait à sortir en cas d'incendie. Il faut apprendre le confinement.
La baisse des impôts au cœur de la rentrée politique.
C'est la une des Échos, un titre motivé par les annonces de Nicolas Sarkozy d'une part et d'autre part par celle de Manuel Valls. Aujourd'hui, dans une interview à l'Express, le Premier ministre promet une baisse de l'impôt sur les sociétés pour 700 000 PME. Le quotidien économique note que cette annonce de Matignon intervient au moment où les pays européens réduisent la pression fiscale sur les entreprises afin d'attirer les grands groupes. Alors que cette compétition bat son plein, la France est à la traîne, note le journal. Avec un impôt de 33% sur leurs bénéfices, les entreprises tricolores sont parmi les plus taxées d'Europe. La moyenne européenne était de 25% en 2015. La bataille fiscale est donc l'un des enjeux de la primaire des Républicains, explique Isabelle Fissek, toujours dans les Échos. Sur la philosophie, dit-elle, les projets vont dans le même sens, mais ils diffèrent sur les mesures concrètes et sur le curseur. Nicolas Sarkozy promet carrément une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Le programme économique de Nicolas Sarkozy autour de l'entreprise et des baisses d'impôts est détaillé par les Échos et par l'Opinion, qui fait remarquer qu'il n'a jamais été aussi pro-business.
Alors que Le Parisien donne des conseils pour résister à la canicule qui frappe 14 départements français, Libération nous rafraîchit un peu avec la Niña.
Caractérisé par de fortes précipitations, ce phénomène climatique qui se produit tous les 3 à 5 ans doit débuter entre août et octobre. Il pourrait causer des ravages dans plusieurs régions du monde, mais aussi limiter de façon indirecte le réchauffement. Si les pluies sont modérées, elles favoriseront la croissance des cultures, écrit Margot Lacroux. La Niña devrait également faire baisser donc la température terrestre, alors que sur les 10 derniers mois, tous les records de température mensuelle ont été battus. Mais prévient la journaliste, la Niña peut tout aussi bien avoir des conséquences désastreuses sur l'agriculture. Cela dépend du moment où se déclenche cet épisode climatique. Le Figaro est allé à Naplouse en Cisjordanie pour essayer de comprendre le récent embrasement de la population palestinienne. Ce coup de chaud estival n'est pas totalement une surprise, écrit Cyril Louis. Il traduit, selon un diplomate occidental interrogé par le journaliste, le divorce entre une partie de la population et l'autorité palestinienne après deux décennies de vaines négociations avec Israël, ainsi que l'effervescence qui s'est emparée de la Cisjordanie alors que les principaux prétendants à la succession de Mahmoud Abbas fourbissent leurs armes. À Naplouse, comme ailleurs en Cisjordanie, les forces de sécurité créées par les accords d'Oslo ont depuis bien longtemps cessé d'être source de fierté aux yeux d'une population qui lui reproche de collaborer trop étroitement avec l'occupant israélien, a pu constater le reporter du Figaro.
Pour terminer, un plan large sur le Sud-Soudan.
Un plan large pour parler cinéma. Et pourtant, ça tourne à Juba, titre Libération, qui revient sur le premier festival de films organisé en juillet dans la capitale de ce tout jeune pays de la Corne de l'Afrique, pays miné par la guerre. Un instant, on pense s'être trompé dans d'endroits, écrit Patricia Huon. La scène se déroule dans un petit café de Juba, la capitale sud-soudanaise transformée en studio éphémère. Elle évoque plus une bande de copains qui préparerait une vidéo surprise pour un mariage que le tournage d'un film. Et pourtant, c'est Milton qui tourne, qui produit, qui fait tout d'ailleurs. Parfois, il y a des erreurs, des imperfections, mais au moins, nous racontons des histoires, dit-il. Des histoires sud-soudanaises pour un public sud-soudanais. Les clients achètent surtout des séries et des comédies romantiques, dit un marchand. Les films de guerre, en revanche, ça ne marche pas trop. L'organisateur du festival, Simon Bingo, a grandi dans un camp au nord du Kenya. Il est revenu dans son pays en 2009, convaincu que le cinéma peut avoir un impact positif. Et il continue à croire qu'il n'y a pas que la violence au Soudan du Sud. Cela malgré les combats qui ont repris à Juba juste après la cérémonie de remise des récompenses.
Merci Dominique Bayard. Revue de presse des journaux français à retrouver à tout moment sur RFI.fr.